I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Est-ce que le AI PIN est la première révolution mobile depuis bien longtemps? Est-ce que l'IA commence à se réguler mais aussi à créer de nouvelles questions? Et est-ce que Instagram payant, c'est un scandale? C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja, nous sommes en novembre 2023, c'est l'épisode numéro 539 et je suis très heureux de vous accueillir en compagnie de mes co-animateurs Cédric Ingrand et Chloé Voitier, auxquels je vais dire bonjour dans un tout petit instant, mais avant je remercie tout de même les patriotes qui ont rejoint l'émission. Je pense qu'il y en a qui ont renouvelé leur soutien. Il y a Durinimus, quelqu'un qui a un mot de passe en guise de pseudo, je pense que c'est fait exprès, mais juste par sécurité, je ne le dis pas. Il y a aussi Sébastien T, Yoshi95FRA, Yoshi né en 1995 en France. Ouais, ça colle. Il y a Cédric Delouquin, un petit jeune qui monte. Pascal le Pascalou, qui est sans doute un Pascalou. Jonathan Van Bell et Nicolas Iratni. Merci à vous tous et merci également aux producteurs Lancelot Davizard et Rémi X. Je vous envoie à tous et à toutes d'immenses bisous spéciaux parce que vous êtes les patriotes. Et les patriotes, c'est le masculin et le féminin, hein, évidemment, qu'on dit pour les deux, qui soutenaient l'émission et qui nous permettaient qui me permettait d'exister dans cet univers de création de contenu et de podcast. Donc un grand merci à vous, patreon.com/rdvtech, si vous souhaitez rejoindre la famille. Et je disais, on a Cédric et Chloé, ce qui... Alors, déjà, quand on a soit Cédric, soit Chloé, ça arrive de temps en temps, on a la garantie d'un épisode d'immense qualité. Aujourd'hui, qu'on a les deux... Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans le podcast, c'est une sorte d'Avengers, à l'époque où Marvel c'était bien, hein, d'Avengers du podcast. Je pense qu'on est in for a treat, ça va être incroyable. Cédric, comment ça va ?
Moins bien maintenant que tu nous mets une pression presque intenable, enfin c'est-à-dire que là, on est condamné au succès quand même tout à coup.
Condamné au succès, je pense, il n'y a pas d'autre issue. Chloé, comment vas-tu ?
Bah écoute, ça va bien, je suis ravie d'enfin réussir à faire un épisode du Rendez-vous Tech, donc ça arrive peut-être une fois par an, donc profitez-en.
C'est ça, tu es de temps en temps dans le Rendez-vous Jeu aussi, mais j'apprécie d'autant plus que tu as désormais encore plus de boulot qu'avant, et tu as réussi, tu as changé de poste, maintenant tu chefs comme tu disais tout à l'heure.
Je chef, donc voilà, j'ai découvert de nouvelles responsabilités, mais oui je chef, donc c'est... Ouais, c'est un peu de boulot en plus. Donc là, cette semaine, là, je suis off. C'est pour ça que j'en profite pour faire un petit peu de podcast. Parce que sinon, ça aurait été même pas la peine. Hein.
Mais pas la peine. Bon, ouais. Tu chefs au Figaro et pendant tes jours off, tu viens dans le Rendez-vous Tech. J'apprécie énormément. Merci beaucoup. C'est compliqué pour moi aussi, je vous avoue. Je vais juste vous dire en un petit instant, on disait hier... avec ma femme, hier soir, je lui disais oh, « Je ne reviens pas après la semaine dernière que les enfants aillent à la crèche demain et qu'on puisse avoir une journée de boulot normale. » Devinez ce qui s'est passé 20 minutes après que j'ai dit ça à ma femme hier soir. Non. Et oui, vous avez deviné, mon fils a vomi partout dans le lit, et donc ils sont encore à la maison tous les deux. Normalement, ça sera qu'aujourd'hui, mais du coup, c'est encore une fois un épisode de rock'n'roll à organiser. Mais on y arrive, ça va bien se passer. Je suis sûr que certains d'entre vous se disent oh, « c'est bon, on a compris avec les enfants, ça ne s'arrête jamais ». C'est ce que je comprends. Non. Cédric, qui en a à peu près 14, le sait mieux que moi encore.
Mais bon. J'en ai plus que toi. Et mais la plus petite, qui a quand même 6 ans, qui toussait, je ne comprenais pas pourquoi elle toussait tant que ça dans son lit. Et finalement, après investigation, elle avait un diamant en plastique rouge dans la narine. Tu vois, le truc où tout à coup ta soirée bascule, moi j'étais déjà couché, mais oui. Où tu te dis, est-ce qu'on va finir la soirée aux urgences?
Mais c'est ça, oui, c'est pas drôle du tout bon, en fait.
finalement, elle a réussi à l'expulser par ses propres moyens. Mais enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est bien. C'est,
je me pose plein de questions hein, de type comment. Voilà, oui, comment
ah, mais ça, alors ça, tu vois, je suis même pas allé jusque-là. Et je vais juste finir par graver dans le marbre un truc qu'on mettra au fronton de ma maison, où il y aura qui est la devise presque, mais presque contrainte hein, de notre famille, qui est Never a dull moment.
Never a dull moment. Jamais un moment ennuyeux.
Qui se traduirait par, c'est ça, à l'abri de l'ennui.
On s'ennuie pas. Chez nous, on s'ennuie pas. Voilà.
Bah, écoutez, j'ai constaté un autre truc avec ça aussi. Avec cette semaine, la semaine dernière, donc, qui était vraiment compliquée parce que les deux étaient à la maison, c'était le chaos à la maison, il fallait faire les émissions. Enfin, je fais les émissions et tout. C'est que mon challenge Slim Patrick, qui continue, enfin Fit Patrick, qui est plutôt Slim Patrick, parce que je ne suis pas très musclé, mais juste je perds du poids, bah c'est plus compliqué quand on dort moins, hein, parce que les enfants, eux, sont à la maison et malades. Je comprends pourquoi j'ai pris tellement de poids ces quelques dernières années. Là, il a été mis à rude épreuve, mais je tiens bon, c'est moins 7 kilos depuis début août. J'ai même fait des photos, alors ça je ne vous les montrerai pas, mais j'ai fait des photos au début et à la fin. Je savais que c'était censé être bien pour voir le progrès que tu as fait, tout ça. Et quand je vois les photos de début, c'est pas comme si j'avais d'autres sources pour voir ma tête hein, sur internet, je suis un petit peu privé moi comme personne, mais juste voir les photos, c'est genre ah oui d'accord, donc 7 kilos c'est quand même pas mal, va falloir que j'arrête un moment parce que sinon je vais disparaître, mais bon bref. Ouais,
c'est une bonne taille et demie hein, 7 kilos. Mm-hmm.
Ouais. Oui. Donc maintenant Slim Patrick, là, je vais commencer à penser à calmer le jeu parce que je suis au poids qu'il faut. La deuxième étape, c'est plus compliqué, c'est il faut passer de Slim Patrick au vrai Fit Patrick, Fit Patrick V2, qui est un petit peu, je dirais, plus musclé, mais en même temps, c'est de la tromperie, ça, aussi. Parce que ça serait juste moins pas musclé qu'il faudrait dire. Mmh. Mais bon, ça, on verra. On verra dans les mois à venir. Bref, on est là pour parler de tech et on va se lancer tout de suite. Avec notre premier sujet, c'est le AI PIN. Qu'est-ce que c'est que le AI PIN ? Eh bien, c'est un nouvel appareil qui a été lancé, qui a été annoncé par... pourquoi est-ce que je n'ai pas le bon ? Oh là là, évidemment, il faut que je change un truc au moment où je me lançais sur ce sujet. Parce que le contenu n'est pas le bon, comme vous le voyez. C'est le mauvais rendez-vous tech dans l'émission. Et là... ça va beaucoup mieux quand on fait comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est que le AI PIN ? Eh bien, c'est le premier produit d'une société qui s'appelle Humane, qui est une start-up assez buzzy, sans doute parce qu'elle a été lancée par deux anciens d'Apple, qui s'appellent Bethany Bongiorno, et Imran Chaudhry. Et donc, leur premier produit, c'est un AI PIN, qui est un produit connecté, qui est censé, qui entend changer la manière dont on pense à nos objets connectés, et particulièrement aux smartphones. En fait, ils ont un petit peu regretté le rôle qu'ils ont joué dans l'émergence des smartphones et de leur omniprésence, et ils se sont dit, on va faire un truc qui est une alternative, qui est moins phagocytant pour la vie. Et donc, c'est un objet qui fait à peu près la taille. Moi, ce que je dis, c'est ça fait à peu près la taille d'une boîte de tic-tac, ou je ne sais pas quel équivalent on peut trouver. C'est un petit objet carré qui s'accroche au revers, au col ou au revers de notre veste ou de notre blouson, et qui est connecté à Internet, qui a un abonnement téléphonique, donc qui est en 4G, 5G, ce que c'est, et qui intègre un nouvel OS qui est essentiellement basé sur l'intelligence artificielle et sur un assistant en intelligence artificielle qui va vous comprendre et vous répondre en fonction de ce que vous demandez. Donc vraiment, l'essentiel, c'est une interaction par la voix avec un assistant intelligent. Donc c'est vraiment la mise au service de l'IA. C'est un petit peu ce que les assistants intelligents comme Siri auraient pu donner déjà depuis des années s'ils fonctionnaient comme on nous le promet. Mais, en fait... ce qui est, donc vous touchez le truc, il ne vous écoute pas tout le temps, vous touchez, vous lui demandez quelque chose, il vous répond, et on sait qu'il travaille avec OpenAI. Donc en gros, on a ChatGPT dans un petit appareil qui peut nous répondre sur nous tout le temps. Le truc, c'est que cette version, cet aspect de cet OS, qui s'appelle Cosmo OS, c'est un peu ce qu'on pouvait imainer de plus, pas, je ne vais pas dire basique, mais de plus évident, parce que dès qu'on vous montre ce que peut faire un chat GPT et l'équivalent avec la voix, vous dites « Ok, donc je le mets dans une petite boîte et je comprends tout de suite ce que je peux en faire. Je le mets dans une petite boîte connectée, ça va me faire un assistant. Je lui demande de passer un appel, il passe un appel. Je lui demande d'envoyer un SMS, il envoie le texte que je lui dicte, etc. » C'est une sorte de fonction de base d'un smartphone sans avoir besoin d'un écran. Sauf que, ils se sont dit, bon, ça suffit peut-être pas pour l'expérience de tous les jours, et donc on va trouver d'autres éléments, d'autres astuces dans l'OS pour pouvoir interagir différemment. Et pour moi, c'est ces aspects-là qui sont les plus intéressants, parce que ce petit appareil, il intègre également un petit projecteur laser. Et ce projecteur laser, il peut projeter sur votre main une image qui est très simple, hein, c'est généralement du texte avec une ou deux icônes, mais vous mettez votre main devant le petit appareil qui est accroché à votre veste et il projette une image monochrome sur votre main et vous pouvez interagir avec l'OS puisqu'il repère les mouvements de la main en bougeant la main. C'est-à-dire que si vous touchez deux doigts ou si vous fermez la main, il va comprendre ces différents gestes et interagir. Donc, vous pouvez contrôler des choses comme dire « active ce truc »,« joue », enfin « lance play »,« répond », »,« ne répond pas », etc. De cette manière aussi. Et limite, pour moi, c'est presque ça qui est plus intéressant même que le fait de mettre simplement une IA dans une boîte. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez tous les deux. Peut-être que je vais commencer avec Chloé, honneur aux femmes. Est-ce que tu trouves ce produit intéressant? Je me demande même si c'est quelque chose de vraiment innovant, le plus innovant qu'on ait vu depuis longtemps. Mais est-ce que c'est utile? C'est une autre question. Qu'est-ce que tu en penses de cette AI PIN?
Je vais être méchante.
vas-y, sois méchante, c'est pas grave.
Non. Mais en fait, déjà, je pense que si ce n'était pas des gens qui venaient de chez Apple, on n'en parlerait même pas de cet objet. Moi, en fait, je vois plein de choses dans l'usage. Alors, il y a des choses intéressantes, hein. Ça, je me le garde pour après.
D'accord.
Mais, alors déjà, en fait, une IA qui passe par la voix, autant quand on est chez soi, pourquoi pas, mais dans la rue. Déjà que je ne supporte pas les gens qui passent des appels en Bluetooth parce qu'on ne comprend même pas qu'ils sont au téléphone. Mais là, t'imagines, c'est tout le monde dans la rue en train de demander tout et n'importe quoi à son IA, au pire, dans le train. Et vous imaginez déjà que c'est l'enfer avec les gens qui ne savent pas utiliser un casque. Donc là, en plus, voilà, tu fais une recherche ou d'utiliser ton téléphone. Bon, voilà, tu vas la faire par la voix. Ensuite, le projecteur sur sa main. Bon, pour moi, c'est quand même très gadget. Hein, comme, quelle utilité. Enfin, tu peux avoir quand même mille fois mieux depuis ton téléphone. Voilà. Il y a plein d'autres choses aussi. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on se fixerait une boîte de tic-tac sur nos vêtements aussi? C'est quand même pas très esthétique tout ça.
Bah, pourquoi une boîte de tic-tac sur les vêtements? Oui, tu veux dire que c'est moche plutôt que d'avoir un smartphone dans la poche ou dans le sac.
Puis c'est dans la femme. Puis après aussi, au niveau sécurité et tout, bon, tu me diras, ton smartphone dans ta main, on peut te le chourer, mais... Mais bon, là, ça, pareil, niveau sécuritaire. En fait, j'ai un peu là. Je pense que les premières personnes qui vont utiliser ça, c'est comme les premières personnes qui avaient des Google Glass à San Francisco. Je pense qu'ils vont se les faire tirer très, très vite. Et par contre, ce qui est intéressant, ce que je trouve, c'est que oui, il y a quand même une tendance un peu plus profonde en ce moment dans la tech d'essayer de se débarrasser du smartphone en tant qu'interface entre nous et Internet. Et de trouver des choses un peu plus seamless. Donc, par exemple, je pense aux lunettes connectées. Là, par exemple, les dernières Ray-Ban qui ont été sorties par Meta. Donc là, ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est dans l'année prochaine. En fait, tu auras aussi un assistant intelligent qui sera connecté dessus et dont tu pourras poser tes questions à tes lunettes que tu portes. Et il te répondra en fait via les haut-parleurs que à l'extérieur on n'entend pas, mais toi tu entendras. Donc c'est à peu près le même principe, c'est de se dire bon ben par exemple je suis devant un monument, je sais pas ce que c'est. Par exemple imaginons je suis à Londres, je suis devant un monument, je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de sortir mon téléphone, je demande à mes lunettes ça, donc ce sera possible l'année prochaine. C'est quoi ça? Et donc, il va me dire, c'est tel bâtiment, blablabla.
Le AI PIN a également une caméra, hein, comme on le disait, et donc, il peut répondre à des questions qu'on lui pose par rapport à ce qui est devant nous. Donc, si on lui dit, qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai dans la main, il peut te répondre, combien il y a de calories, c'est l'exemple qu'il donne, dans tel fruit, tel légume, ce que c'est. Donc, oui. Mais c'est vrai que c'est le même principe. C'est l'idée, bon, bah, on met une IA, en gros, hein. On met un chat GPT dans un objet et on peut interagir avec lui. C'est notre interface utilisateur, c'est la voix plutôt que des écrans, comme ça a été le cas essentiellement depuis des années. Donc, il y a que, ouais, en gros, t'es quand même très mitigé, quoi.
Alors, je suis très mitigée, mais après, ouais, je reconnais la tendance profonde. Alors, je pense que c'est pas ça qui va craquer le problème, mais de voilà, faire en sorte qu'on n'ait plus cet objet dans nos mains continuellement, donc qui est mon smartphone, hein, pour ceux qui n'ont pas l'image, et voilà, qu'on puisse interagir de manière plus naturelle avec le monde numérique. Ça, voilà, on sent que c'est une tendance forte, mais après, est-ce que c'est la boîte de tic-tac qui va y parvenir? Je suis pas certaine.
D'autant plus que, elle coûte le prix d'un smartphone, environ $700 aux États-Unis. Je pense qu'il sort qu'aux États-Unis.
Et un abonnement.
Et un abonnement à $24 par mois, ce qui est un abonnement de smartphone finalement. Mais voilà, c'est l'abonnement qui est nécessaire. Donc, c'est pas un truc qu'on peut avoir a priori en plus du smartphone, à moins de vouloir le tester, d'être riche, c'est possible. Mais... Cédric, est-ce que tu es aussi mitigé?
Disons que moi aussi, je reconnais le côté assez valeureux d'essayer, tu vois, d'aller transpercer le smartphone en disant « je n'ai plus besoin de toi ». En fait, on sait d'ailleurs que l'essentiel de ce que l'appareil affiche avec son petit afficheur laser, c'est l'indication de ton smartphone. C'est embêtant.
Pardon, tu as un peu coupé. Tu disais « c'est comme les notifications de ton smartphone ».
Non, ce que je veux dire, c'est ce qu'il affiche. Pour l'essentiel, c'est les notifications de ton smartphone. Donc, on ne s'en détache pas complètement. Et y a déjà eu des tentatives hein, comme ça. Il y avait eu un projet de recherche chez Microsoft avec justement un petit truc qu'on portait sur soi, mais qui avait juste une caméra pour enregistrer toutes les interactions de la journée et pourquoi pas un jour arriver à les déchiffrer, les archiver, etc. etc. Il y a plein de choses à faire avec ça, mais je rejoins Chloé sur le côté... Moi, je détesterais poser des questions à la voix dans la rue ou dans le métro. Oui. Enfin, ça, je trouverais ça absolument insupportable. Et je trouverais insupportable que d'autres le fassent. Et si c'est pour faire juste ça, on peut le faire avec des AirPods. Donc, c'est compliqué. tu disais, s'il ne venait pas d'Apple, on n'en parlerait pas. S'il ne venait pas d'Apple, ils n'auraient pas eu l'argent pour le faire.
Donc, oui, aussi,
Tu vois, ils n'auraient pas eu l'argent, les relations. Ils ne seraient pas allés le montrer à Marc Benioff sur... sa maison à Hawaï. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses qui sont dans le papier de New York Times qui est vachement bien foutu. C'est valeureux. Je vais pas me ruer dessus, surtout à $700, donc ouais. 700 euros, hein, on va pas se mentir, plus 25 euros par mois d'un abonnement qui t'apporte pas de data, enfin, qui ne remplace pas ton abonnement mobile. Donc, ça ne remplace rien. Mais tout ce qui va nous permettre de nous détacher un peu de nos smartphones est bon à prendre. Il y a d'autres solutions. Hein. J'étais au Canada très récemment et j'ai vu des gens plus jeunes que nous, plus cool que nous, dans des endroits plus cool que nous, qui eux sont revenus au flip phone en fait.
Ouais.
Passer des appels et quelques SMS, ça marche aussi et c'est moins cher.
Et pour ce qui est de l'usage par les mains dont tu parlais, Patrick. Alors. Ouais. J'essaie de me souvenir, mais je me demande si ce n'était pas dans la conférence Meta où ils avaient aussi montré ça. Ouais, c'est ça.
Je m'en souviens. En fait, il y avait un certain temps, même un an et demi, Meta qui avait montré ça. Ils avaient un petit appareil, l'équivalent d'une montre, qui faisait ça pour contrôler leur réalité virtuelle, leurs applications en réalité virtuelle. Et Apple, bien sûr, qui l'a fait avec la dernière Watch, simplement le petit tap avec les deux doigts.
Alors, c'est ça, c'était chez Apple, oui. Voilà, le petit double tap avec les mains. Donc voilà, ça aussi, on voit aussi tendance lourde d'aller chercher un contrôle directement par les mains plutôt que de tapoter sur un écran. Donc tendance aussi de fond.
C'est effectivement des interfaces qui sont créées pour pallier à des problèmes, enfin, ou des nouveaux usages. À partir du moment où on se dit on s'affranchit de l'écran ou on a une autre forme d'écran, ben, il faut trouver d'autres moyens de contrôler, d'interagir avec l'ordinateur. Et ce moyen est évidemment, le fait de bouger un petit peu les mains commence à devenir intéressant. Moi, je dirais qu'il y a quand même dans cet appareil une sorte de, comment dire, des prémices d'un potentiel intéressant qui rejoint ce que tu dis, Chloé, et ce que tu dis, Cédric, aussi. C'est-à-dire, bon, bah, comment on fait, d'une part, si on utilise moins de smartphones, et surtout, comment on fait une fois qu'on arrive à ce qui est l'aboutissement évident de l'avènement de ChatGPT, qui est, on met un assistant qui marche dans une boîte et on le connecte tout le temps. Le truc, c'est que cet assistant qui marche, bah, ça peut être, il peut être dans n'importe quelle boîte. On n'a pas besoin de le mettre dans une boîte dédiée, dans une boîte de tic-tac à IA à 600 € en plus de votre smartphone. On peut le mettre dans le smartphone, vous connectez avec les AirPods ou ce que c'est, et ça marche aussi bien, quoi. Et si, en plus, on a un moyen, que ça soit la montre ou un autre, de contrôler un petit peu avec les doigts, on a toutes les options disponibles. Il y a peu de raisons de vouloir un appareil dédié pour ça, mais en même temps, si ça fonctionne super bien, le fait d'avoir le projecteur laser qui vous fait sur la main, je sais que ça ne vous a pas parlé, le truc, c'est que ça permet d'avoir une fonctionnalité qui, enfin, un assistant qui fonctionne bien, mais quand il ne fonctionne pas, ben on a quand même l'option d'avoir un truc visuel sans avoir besoin d'un smartphone quand même. Je ne sais pas, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, qui m'intéresse là-dedans, et je me demande si ça ne pourrait pas donner quelque chose à terme. Parce que cette idée... Bon, le truc, c'est que, concrètement, je vous rejoins au final, avoir sur le revers de la veste, enfin, si tu es en t-shirt, par exemple, tu le mets où ? Il y a plein de trucs pratiques qui font que... Et toutes les fonctions qu'il fournit peuvent être accomplies par d'autres appareils. Donc, bon, peut-être.
Il y a aussi un use case qu'ils ont montré dans leur vidéo. J'ai hurlé. Je crois qu'il y a la personne qui est dans son bain et qui projette des trucs sur sa main. J'ai dit, mais personne ne ferait ça.
Oui, c'est sûr qu'il y a... Bah, je dirais que c'est un produit... qui est peut-être un gadget, mais qui est un gadget intéressant. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Il y a des éléments intéressants là-dedans, même si ça ne, on n'imagine pas qu'il prendra et qu'il va envahir le monde, quoi. Deuxième sujet, l'IA encore, l'IA qui commence un petit peu à s'auto-réguler. Il y a plusieurs sujets à évoquer là-dedans, mais l'essentiel, c'est... Adobe et Adobe qui crée des problèmes avec ces images de stock. Avant ça, je voudrais juste mentionner que l'IA commence à s'auto-réguler et à se réguler légalement aussi. Évidemment, on en parle depuis des semaines et des mois. Les gouvernements s'intéressent aux effets pervers de l'IA et imposent des règles. Une règle qui s'est été auto-imposée par Google, c'est que le Magic Editor de Google ne permettra plus d'éditer des documents d'identité, par exemple. Il refuse d'éditer un document d'identité. Quand on le fait dans le logiciel, il reconnaît ça et il dit non, désolé, moi je peux pas faire ça. C'est comme, je sais pas si vous le savez, mais les imprimantes n'acceptent pas d'imprimer de la monnaie, enfin de photocopier des billets, ils acceptent pas parce que c'est tellement fin que ça pourrait passer.
Les photocopieuses, oui.
Et ça fait longtemps, ça vient sur les imprimantes, les photocopieuses, et ils reconnaissent, ils disent bah là c'est pareil avec le Google Photos Magic Editor. Meta a annoncé qu'ils imposeraient aux publicités politiques, aux annonces politiques générées par IA, de mentionner le fait qu'elles sont générées par IA. Et il y a une loi au niveau du Parlement européen également qui a été approuvée en ce sens pour obliger tous les grands acteurs à labelliser les publicités politiques. Bon, ça ne concerne pas en France, mais c'est important. Non seulement de labelliser, enfin, chez Meta avec l'IA, mais là, de labelliser le fait que ça soit une publicité politique, de dire qui a payé, combien ils ont payé, pour quelles élections, etc., etc. Donc, plus de clarté à ce niveau, c'est plutôt bien. Mais pour en revenir à Adobe, il y a quelque chose de vraiment intéressant, je trouve, qui s'est passé avec les images générées par IA chez Adobe. C'est une possibilité qu'ils ont ouvert il y a quelque temps de ça. Donc, on peut trouver dans leur stock de photos des images générées par IA. Il y a des images générées par IA qui sont relatives au conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que ce sont des images qui ne sont pas des photos, qui sont photoréalistes, qui dépeignent des situations créées par des prompts qui évoquent le conflit israélo-palestinien. Elles se sont retrouvées sur certains petits sites, et bien sûr, il faudrait, sans label, il faudrait les labelliser, mais un truc qui est encore plus intéressant dans cet article que j'ai lu, et même dans l'idée qu'on peut s'en faire, c'est que, imaginons ces images qui sont labellisées, moi je trouve que ça pose la question, une question qui est nouvelle avec l'IA, c'est une image dont on sait qu'elle n'est pas réelle, mais qui évoque un conflit, qui évoque de la violence, du désespoir, de la misère, tout ce que peut engendrer une guerre. Et je me demande si le fait de savoir que c'est généré par IA va changer quelque chose. Ou si c'est simplement ce sentiment que ça va évoquer, bon, bah oui, c'est généré par IA. Mais le sentiment qui est généré par une image fausse, est-il faux pour autant, ce sentiment ? Je ne suis pas sûr. Et donc, il y a quelque chose de, je ne sais pas, j'arrive pas à exactement mettre les mots dessus, mais il y a quelque chose de dérangeant, de malaisant là-dedans, le fait de se dire, bah oui, mais il y a ou pas, on s'en fout. À partir du moment où le sentiment a été généré, bah, il reste. Mais bon, ce n'est pas la seule, le seul problème. Tu me disais, Chloé, que cette chasse à l'IA est un petit peu compliquée dans les images sources, notamment chez Adobe. Vous avez été confronté à ça ?
Bah, en fait, Le Figaro, comme plein d'autres médias, on a des abonnements Adobe Stock pour illustrer certains sujets. Donc, vous connaissez bien les images Adobe Stock, elles font des mèmes à l'infini. Voilà, c'est des gens qui sont pris en photo dans des situations très neutres, de type je regarde mon smartphone, je suis dans la rue, je dispute mes enfants, etc., pour illustrer des sujets lifestyle plutôt. Mais il se trouve que maintenant que Adobe permet. Permet de mettre sur sa plateforme des photos générées par IA, et ben qu'on en trouve, en fait, nous, dans notre photothèque, donc qui est intégrée, voilà, qui vient de chez Adobe Stock, et qui arrive sur nos outils à nous. Là, on a fait en sorte, on a discuté avec le service photo, que désormais, toutes les nouvelles images qui arrivent d'Adobe soient expurgées des versions avec IA, mais il y en a encore qui traînent un petit peu. Et là, j'ai eu le cas la semaine dernière avec une personne de mon service, qui avait illustré un article autour du harcèlement scolaire avec une photo où on voit un collégien prostré dans un coin de son école. Et après, bon, vu que je connais bien les photos mid-journée, j'ai reconnu mais directement que c'était une photo IA. Parce qu'elles ont quand même un grain d'image très particulier.
Il y a un style.
Un style très particulier. Et donc, je dis, mais attends, cette photo, elle vient d'où ? Donc, on a regardé les crédits. Le crédit, c'était genre une suite de chiffres et de lettres qui n'avaient aucun sens. Et donc, j'en ai parlé au service photo. Ils m'ont dit, oui, ça, c'est une photo générée par IA. Donc, il ne faut surtout pas l'utiliser. Donc, on l'a fait remonter pour la virer de notre photothèque. Mais en fait, ça montre qu'un œil, on va dire, peu averti peut se faire avoir. Même si on est en train de passer des consignes en interne pour dire, surtout, vous n'utilisez pas ces photos. Pour illustrer un sujet lifestyle très innocent, etc., on ne fait pas, on ne prend pas ces photos. Mais le problème, c'est que même avec toute la bonne volonté du monde, si ces photos-là se retrouvent dans votre photothèque interne et que des journalistes de toute bonne foi se disent « cette photo, elle est pas mal, je vais la prendre », juste parce que leur œil n'est pas exercé à les reconnaître, on peut se retrouver malheureusement avec des photos qui générées par IA qui se retrouvent sur des sites internet, voire des fois dans des journaux papier, parce que en fait, on va dire, le contrat de confiance n'a pas été respecté au départ entre notre fournisseur d'images et nous.
C'est ça. C'est-à-dire que certains se demanderont peut-être, et tu vas me dire si j'ai raison, mais du coup, c'est Adobe qui les fournit. Est-ce que Adobe ne les labellise pas ? Mais comme la photothèque d'Adobe est ouverte à des créateurs, entre guillemets, ou des photographes indépendants, peut-être que eux, à la base, en uploadant, ils n'ont pas labellisé comme il faut. Et ensuite, Adobe ne va pas regarder. Enfin, c'est un marketplace ouvert, c'est ça ?
C'est un marketplace ouvert. Et là, j'avais un autre responsable de l'édition qui nous disait l'autre jour que il voulait illustrer un papier autour d'un silo à grains. Donc voilà, un truc silo à grains. Il m'a dit les 10 premières photos qui sortaient sur Adobe Stock, c'était de l'IA. Et donc, il fallait vraiment cocher une petite case pour expurger des résultats de recherche toutes les images générées par IA.
Oh, bah si ça, c'est possible, ça va alors. Si on peut.
Ah, c'est possible, en fait, simplement... mais si tu vas directement sur le site d'Adobe. Mais nous, en fait, on a aussi sur notre CMS, donc notre outil pour nous permettre d'écrire des articles, on a aussi ce qu'on appelle la photothèque, où dedans, en fait, c'est les flux qui viennent de chez Adobe, de chez AFP, de chez Reuters, etc. Donc, tu fais tes recherches photos directement. C'est normalement, les rédacteurs n'ont pas accès directement aux plateformes même de Adobe, de AFP et compagnie.
Du coup, il faut que dans les API, les outils soient mis à jour pour qu'on puisse sélectionner, mais ce n'est pas encore fait. D'accord, c'est ça.
Mais c'est en cours. On est en train d'expurger notre photothèque de tout ça. Parce que tu risques de te faire piéger et de sortir une photo. Alors là, tu me diras, c'était une photo lifestyle, c'est pas si grave. En fait, si, parce que là, quasiment toutes les rédactions, on est en train de faire des chartes autour de l'utilisation de l'IA, enfin de l'IA générative. Et l'idée, c'est d'avoir un contrat de confiance entre nous et nos lecteurs et de dire, jamais on utilise ce type de photo. Toutes les photos que vous verrez chez nous sont vraies, même si ce sont des photos d'illustration. Mais on pourra éventuellement les utiliser pour illustrer des sujets autour de l'IA générative. Là, OK, ça, c'est une exception. Mais par contre, vous ne verrez pas de faux. Parce que c'est aussi une question aussi de relation avec les photographes avec lesquels on travaille, des artistes avec lesquels on travaille. Voilà, c'est aussi un signal envoyé pour leur dire « Vous n'allez pas être remplacé demain par une machine. » Donc voilà, il faut faire super gaffe. Donc je sais, c'est vraiment un sujet d'attention très très fort dans les rédactions.
J'imagine
c'est un,
bien
c'est un
que
mouvement
ça...
plus général, c'est-à-dire qu'il y a, des journalistes, je voyais ce week-end, je crois, c'est RSF, Reporters sans frontières, et puis avec une quinzaine d'organisations partenaires, ont publié une sorte de charte de l'IA. Alors il y a plein de trucs qui rentrent dans des détails qui sont très, très comment dire, microcosmiques, mais l'une des premières promesses, c'est que les médias doivent aider leurs lecteurs, leurs spectateurs à
Oula,
un contenu synthétique. Pas qu'on utilise. Alors après, on peut avoir des principes libérés à l'échelle d'une rédaction. Moi, ça ne me gêne pas qu'on utilise une image de Midjourney pour illustrer un sujet lifestyle. Ce serait beaucoup plus gênant dans un sujet de news. Mais dans tous les cas, si on le fait, j'ai envie de l'utiliser. Enfin, tu vois, que dans le cas des photos, image Midjourney, enfin, image générée, voilà. Ça, moi, je n'ai pas de souci avec ça, mais il faut être transparent là-dessus. Être transparant, il faut le savoir, Chloé a raison. D'abord, il faut le savoir.
Nous, on a commencé à illustrer certains épisodes avec des images. Ah, pardon, tu étais en train.
Oui, mais Chloé a l'œil aujourd'hui pour repérer un contenu Midjourney, mais regarde ce qui s'est passé sur l'année écoulée sur la qualité des images générées. Et il n'est pas sûr que dans un an, on arrive encore à le distinguer.
C'est sûr. Nous, on a commencé à utiliser des images Midjourney pour illustrer. Alors, c'est juste sur le blog, ça apparaît pas vraiment dans le flux de podcast. Mais évidemment, on l'a labellisé dans l'article. On dit l'image a été générée par Midjourney. Alors, nous, c'est des trucs marrants. On ne fait pas de choses si impactantes que ça et les illustrations ne sont pas importantes. Mais je suis particulièrement. Intéressé par ce que tu disais à propos de l'adolescent prostré, parce que ça rejoint un petit peu ce que je disais sur le conflit israélo-palestinien. Si, imaginons même qu'on dise, ça c'est une image générée par IA, imaginons même que ça soit labellisé, que vous le sachiez, ou que quelqu'un le fasse comme ça, dans ce cadre, ça crée un affect avec le lecteur qui va voir cette image, et même en sachant que c'est une image générée par IA, ça donne un certain sentiment, une certaine sensation. Et par rapport au contrat de confiance dont tu parlais, c'est une sensation qui est générée par un truc qui n'est pas vrai, qui n'est pas factuel, qui n'est pas... Oh, évidemment qu'on peut trafiquer des images, qu'on peut prendre, cadrer comme on veut, mais au minimum, on sait que ce truc existe. Là, ça devient beaucoup plus artificiel. Et cette idée que l'IA, même si on sait que c'est de l'IA, et même si le lecteur est au courant, va pouvoir affecter notre perception de quelque chose me paraît être une étape supplémentaire des problèmes créés par l'IA qui commencent à poindre à peine, et donc l'idée de juste ne pas en utiliser est peut-être
comme ça au moins on se règle pas mal de soucis en partant du principe que non, en fait, juste ils n'utilisent pas et basta.
Troisième sujet que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est un truc dont on a parlé rapidement parce que ça ne me semblait pas si important il y a quelques jours de ça. C'est le fait que Instagram et Facebook ont désormais, dans l'Union européenne, une option payante. C'est-à-dire que si on veut utiliser Instagram et Facebook comme c'était le cas jusqu'à maintenant, c'est possible, avec de la publicité ciblée. Mais si on veut utiliser Instagram et Facebook sans publicité, on peut le faire en payant une somme quand même importante pour ces deux outils. C'est 12 euros pour les deux aujourd'hui, ça sera 12 euros pièce dans quelques mois, donc c'est vraiment assez cher. Mais ça a provoqué une réaction de rejet que même en connaissant Internet, je n'imaginais pas. Et je pense que, en partie, cette réaction de rejet a eu lieu parce que les gens ne savent pas exactement pourquoi c'est en train de se produire. Et peut-être que, comme je l'ai moi mal expliqué peut-être dans l'épisode précédent, le monde ne comprend pas et donc c'est un problème. Donc je vais mieux l'expliquer pour être bien au service du monde, au service de la France. La raison pour laquelle cet abonnement existe, c'est que Instagram et Facebook, donc, se mettent en conformité avec la loi qui impose à ce type de service, à tout service Internet, d'offrir une option, enfin, impose d'offrir une option dans laquelle il n'y a pas de publicité ciblée. On peut, si on le souhaite, n'offrir que cette option-là, et la plupart des sites choisissent d'offrir une option avec publicité ciblée et gratuite avec publicité ciblée, gratuite sans publicité ciblée, ou alors gratuite sans publicité ciblée. Non, pardon, excusez-moi. Gratuite avec publicité ciblée ou gratuite sans publicité ciblée, ou alors gratuite avec publicité ciblée et payante. La plupart des sites choisissent l'une de ces deux formules. Jusqu'à maintenant, Instagram n'était pas en conformité avec la loi, puisqu'il n'offrait qu'une seule option, qui était celle d'une utilisation gratuite avec publicité ciblée. Il y a désormais une option payante, sans publicité. Donc, c'est vraiment une réponse. Alors, la question du prix élevé est autre, mais c'est vraiment une réponse à une exigence de la population européenne qui a dit « Nous voulons avoir la possibilité d'utiliser vos services sans nous faire traquer pour la publicité. » Le peuple s'est exprimé par la voix de ses gouvernements, de l'administration, a écrit des lois, et maintenant, les services doivent s'y conformer. Donc, Instagram n'a rien demandé à personne. C'est pas eux qui ont dit « on veut faire », c'était pas les posts partagés dans les années 2010, « Instagram va devenir payant, partagez-le vite, sinon vous devrez payer pour utiliser Instagram, partagez ce texte, copiez-le, machin ». Non, c'est pas pour ça qu'ils ont fait cette option, c'est pour se mettre en conformité avec la loi. Il y a beaucoup de sites qui le font. Si je ne me trompe pas, Le Figaro, par exemple, Le Monde, je crois bien, et énormément de sites. Vous avez le choix, quand vous arrivez sur une page de ces sites-là, vous pouvez accepter les pubs ou vous abonner pour une partie des articles, une bonne partie des articles, parfois tous les articles. Donc, ça crée peut-être d'autres questions, et on peut y revenir dans un instant, mais à la base, c'est pas Instagram qui voulait créer cette version payante. C'est la loi qui le leur impose. Alors, bien sûr, ils auraient pu choisir d'offrir une version gratuite avec publicité ciblée et une version payante. Pardon, je me perds. Oui. Une version gratuite avec publicité ciblée et une version gratuite sans publicité ciblée, avec publicité contextuelle. Ils auraient pu, bien sûr. Mais la publicité contextuelle, ça rapporte moins. Et évidemment, ça ne les intéresse pas. Et ils auraient pu offrir un abonnement moins cher. Mais ça ne les intéresse pas. Ils veulent faire de l'argent. Alors attendez, j'ai mon petit jingle. J'ai mon petit jingle juste là. Voilà, c'est ce qu'ils se sont dit dans le bureau de Mark Zuckerberg. Est-ce que je rationalise trop ou est-ce que c'est le monde qui est hystérique à réagir avec tellement de rage, de frustration et d'énervement à cette offre d'Instagram ?
Mais non, mais c'est parce que malheureusement, les gens ont du mal à comprendre, et c'est normal parce que c'est très compliqué, comment fonctionne l'économie des réseaux sociaux. Et ils ont du mal à comprendre que c'est le fameux « si c'est gratuit, c'est vous le produit », c'est vrai. Et que si vous avez accès gratuitement à Facebook et à Instagram, il y a quelque chose que vous donnez en retour, mais vous ne vous en rendez pas forcément compte, qui sont vos données personnelles et qui permettent derrière de vous afficher de la publicité ciblée. Et on peut être tout à fait d'accord avec ça, et il n'y a pas de souci. On peut dire « ok ». Pas de souci, moi j'en ai rien à faire, allez-y, traquez-moi, je veux utiliser les services gratuitement. Mais ce que la loi européenne dit, c'est qu'il faut aussi proposer une alternative. En fait, déjà, il faut vous informer clairement de ce qui se passe. Ensuite, vous demandez est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, non. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous permettre quand même d'accéder au service. Et ça, en fait, c'est là-dessus que le groupe Meta s'est fait taper sur les doigts, parce que jusqu'à très récemment, quand on s'inscrivait sur Facebook ou Instagram, c'était « j'accepte ». Et si j'accepte pas, « ah ben c'est con, tu peux pas ouvrir ton compte ». Voilà. Donc, voilà. C'était juste consentement au contrat. Tu veux ouvrir un compte chez nous. D'accord, ça se passe comme ça. Tu veux pas, tu rentres pas. Donc ça, c'est pour ça que les autorités européennes ont mis des très grosses amendes à Meta. pour leur dire qu'il faut se mettre en conformité. Et d'où l'apparition de cette version payante. Et comme tu l'as très bien expliqué, Patrick, ils auraient très bien pu dire « Ok, bon bah, si vous ne souhaitez pas les publicités ciblées, vous aurez des publicités non ciblées. » Mais hey, le problème, c'est que c'est beaucoup moins rémunérateur. Et donc, ils ont offert cette autre option en sachant, je pense, pertinemment, que très peu de monde vont prendre cette option. Mais au moins, ils sont en conformité. Ça, ce n'est pas encore sûr. Parce que la CNIL irlandaise est en train d'examiner si c'est OK comme solution. Mais si c'est OK, ils pourront dire, regardez, c'est bon, on est en conformité, arrêtez de nous mettre des amendes.
Si c'est pas OK, il va y avoir une palanquée d'offres qui vont devoir être revues, y compris une bonne partie de la presse française, comme on le disait.
Attention, non, on ne peut pas tout confondre, parce que les médias sont sur un modèle qui est différent. En fait, il y a des choses qui sont légales, pas légales, et puis il y a des choses qui tiennent au texte. C'est-à-dire que quand toi et moi, on a ouvert notre compte Facebook, il y a 15 ans, c'était Facebook est gratuit, Facebook restera toujours. Et ça a changé en 2019, je ne sais plus, ils l'ont changé avec une traduction française pourrie qui était genre « c'est simple et facile », enfin un truc « c'est facile et rapide », enfin c'est un truc qui veut absolument rien dire. Et si tu veux, le fondement du RGPD, c'est que, un, tu donnes ton consentement et que ce consentement soit libre. Or, considérer que ton consentement est libre quand, au bout de 15 ans d'utilisation d'un service, tout à coup, brutalement, on te dit, il va passer en payant, sauf à ce que tu acceptes les publicités ciblées, sans avoir un choix intermédiaire, justement, comme il existe ailleurs, comme il existe sur YouTube et ailleurs, c'est-à-dire de pouvoir, par exemple, avoir des publicités pas ciblées. Moi, c'est ce que je fais sur YouTube, mais c'est parce que, enfin, c'est un peu de masochisme, parce que du coup, tu te retrouves avec vraiment le fond de la cuve des pubs dont personne ne veut. Enfin, je ne raconte pas. C'est absolument terrible. Bref. C'est là où ils vont se faire taper sur les doigts, et c'est là où ils sont dans une situation particulière dans laquelle, à la limite,
tu coupes beaucoup, Cédric. Tu nous dis.
Ouais, je suis désolé.
La situation particulière dans laquelle les sites de presse ne sont pas, tu trouves ?
Mais les sites de presse, non, parce qu'ils ont il y a du payant et du gratuit, et c'est pas quelque chose de nouveau. Donc c'est plus compliqué, c'est plus facile à défendre.
D'accord, peut-être. Moi, ça me paraît limite, mais du coup, tu te situes un petit peu plus du côté de ceux qui disent oui, enfin, ils ont tourné la loi comme ça les arrange. On n'est pas aussi, c'est pas aussi clair que ça qu'il est autorisé de le faire de cette manière.
Oui, mais c'est pas sûr que ça passe. Donc on verra ce que décidera la CNIL irlandaise, mais. C'est pas certain que ce soit autorisé, parce que je reprends l'exemple de la presse, on va dire aussi la presse et les médias ont une situation particulière qui sont que nous avons une économie pour le moins fragile. Donc je pense que c'est pour la raison pour laquelle la CNIL française a dit OK à ce qu'on appelle le cookie wall, donc que vous voyez à chaque fois, qui est souhaitez-vous le dépôt de cookies ? Oui, non. Si c'est non, c'est genre ce serait quand même mieux de s'abonner dans ce cas-là, parce qu'il faut bien financer nos journalistes, il faut bien financer nos enquêtes, donc s'il vous plaît. Il faut nous aider d'une manière ou d'une autre. Et ça, du coup, ça passe mieux parce que, voilà, on est quand même. L'économie des médias n'est quand même pas super florissante, alors que, bon, du côté de Meta, c'est quand même un peu une autre histoire.
Pardon, vas-y.
Non, puis aussi le prix qui a été. Parce qu'on parle aussi beaucoup, c'est quand même super cher. Alors, oui. Après aussi, ça vous permet de prendre conscience aussi de combien est-ce que vous rapportez à Meta. Parce que là-dessus, on peut le voir assez facilement. Bon, si on va traîner dans les documents boursiers et financiers que Meta publie tous les trimestres, et tous les trimestres, ce qui est bien, c'est qu'il découpe par géographie combien lui rapporte en moyenne un utilisateur en Europe, aux États-Unis, en Asie, etc., etc. Donc c'est là que vous voyez un peu combien vous leur rapportez. Et pour que je ne dise pas de bêtises, pour les Européens, c'est par trimestre, on rapporte, je crois, c'est 20 dollars. 20 dollars par mois qu'on rapporte chacun d'entre nous à Meta tous les trimestres. Et donc là, en proposant un abonnement donc à 10 euros par mois, parce que c'est 10 euros depuis le site et c'est 13 depuis l'application, parce qu'il répercute sur le consommateur la taxe Apple et la taxe Google. 10 euros x 3, ça fait 30 euros par trimestre. Donc en plus. Ils s'en mettent, j'ai envie de dire, c'est encore plus rentable pour eux. Ça rapportera encore plus d'argent que la simple publicité. Mais en tout cas, voilà, si le tarif est élevé, donc non, ce ne sera jamais 2 euros par mois parce qu'ils y perdraient trop. Parce que vous leur rapportez 20 dollars par trimestre. Donc, divisé par 3, ça fait 7 euros par mois. 7 dollars par mois, donc un peu plus en euros. Donc, ça aussi, je pense que si c'est une vertu, on va dire, peut-être pédagogique, c'est de se rendre compte que voilà, tout l'argent que chacun d'entre nous, nous leur rapportons.
C'est ça, on ne se rend pas compte, en fait. Si je pousse un petit peu le bouchon, et merci des précisions que vous avez apportées, mais si je pousse un petit peu le bouchon, c'est que, et je pense que ça fait partie des frustrations qu'expriment les gens avec leur cri d'orfraie à l'annonce de l'abonnement de Facebook, c'est que d'une certaine manière, on s'est habitué à ce qu'Internet soit gratuit ou très bon marché. On a eu des services qui se rémunéraient sur nos données privées. On a eu des services qui finançaient leur expansion, leur croissance avec de l'argent de venture capitaliste. Je pense aux services de streaming, par exemple, dont les prix augmentent. On a eu un Internet, on va dire, depuis 2000-2005, qui offrait des myriades de possibilités incroyables, quasiment gratuitement, ou alors au prix de nos données privées. Et maintenant, ce réajustement fait que tous ces services, bah, les prix sont ajustés, ou il y a d'autres possibilités, etc. Et moi, je suis frustré de deux manières. D'une part, parce que je connais bien le monde d'avant, le monde où, pour regarder un film, il fallait soit payer le satellite à 95 euros avec 12 000 chaînes que tu voulais pas, ou alors aller acheter un DVD à la Fnac à 20 euros pièce, ou alors aller payer 5 euros ou je sais plus combien de francs au vidéoclub. Si tu voulais un CD, il fallait aller payer 20 euros le CD. Donc moi, je connais tout ça. Et donc, je vois ce qu'on a aujourd'hui, je me dis, mais enfin, on est dans une économie qui est incroyable, dans une société qui nous offre tellement de possibilités, on a accès à tout, il y a encore plein d'options, bon marché ou gratuites pour tout, et ce réajustement est normal, mais je comprends que la frustration de ces 20 dernières années ou 15 dernières années, on se dit, bah oui, mais du coup, c'est plus la même chose, et on a ce réajustement qui est peut-être nécessaire, possiblement, mais qui fait mal. Et puis, il y a aussi cette question de la publicité ciblée et de la publicité non ciblée. On a eu ces discussions sur le Discord notamment, et certains disaient, bah oui, mais si on interdisait tout simplement, je schématise un peu, mais si on interdisait tout simplement la publicité ciblée, la publicité contextuelle, le prix augmenterait, et du coup, ça ferait que la publicité contextuelle serait peut-être plus viable et le système serait plus sain. Moi, j'en suis pas convaincu. Je pense que le problème est que avec de la publicité contextuelle, on génère moins de clics, et avec la publicité ciblée, c'est intéressant, ça crée de la valeur parce que en faisant moins de publicité, on propose des choses qui intéressent les gens qui y sont exposés. Tu donnais l'exemple, Cédric, avec YouTube qui peut te fournir des publicités non ciblées, et du coup, c'est des trucs qui t'intéressent pas, quoi. C'est ça le vrai problème, et donc ça marcherait moins bien, je crois. Ça financerait pas ces services, mais la question peut se poser.
Et la chose que je voulais juste ajouter avant de te laisser la parole, Cédric, c'est pareil sur le prix, sur combien est-ce qu'on rapporte chacun tous les mois ou tous les trimestres à Facebook. Aux États-Unis, donc nous en Europe, c'est 20 dollars par trimestre. Aux États-Unis, on n'est pas très loin de 60 dollars par trimestre. Donc ce qui vous montre déjà qu'on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Et ce qui, pour moi, j'estime que ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'offre payante à Facebook ou Instagram aux États-Unis, parce que juste le prix serait délirant. Enfin, il faudrait qu'ils le doublent, voire triple par rapport à ce qu'ils proposent en Europe.
Là où ils auraient pu faire un effort, ça aurait été de proposer une offre payante qui, par exemple, est, des fonctions bonus, des choses qui t'en donnent plus. Voilà. Et là, tout à coup, ça aurait été même beaucoup plus.
Ça coûte toujours,
YouTube, par exemple, là encore. Désolé, à l'instar d'un YouTube, si vous nous payez, vous aurez plus de pub, d'autres choses. Et ils ne le font pas, je pense qu'ils se mettent un peu en faute.
Je comprends que ça soit frustrant. Il y aurait tout un débat à avoir sur la manière, mais disons que l'idée de pub ciblée, pub contextuelle. Est-ce qu'on pourrait avoir un Internet qu'avec des pubs contextuelles? Est-ce que ça serait mieux? Est-ce qu'on a raison de se plaindre du fait qu'Internet soit plus gratuit? Est-ce que là, c'est... Parce que, mine de rien, c'est nous qui avons voulu cette situation. Et je pense pas qu'on puisse imposer raisonnablement à un site comme Facebook, leur dire « vous devez proposer une version gratuite sans pub, par exemple ». Ça, c'est pas possible. Et quelque part, imposer d'avoir une version gratuite avec pub, mais contextuelle, je sais pas, moi, ça me gêne un petit peu. La manière dont ça fonctionne, c'est bah, si ils sont tellement puissants, ils ont un tel monopole que il faut, on ne peut pas passer outre et la concurrence ne peut pas jouer pour offrir un autre service, bah, c'est à ce monopole qu'il faut s'attaquer. Mais bon, ça, c'est une autre question, c'est de l'économie et je parle peut-être de choses que je ne comprends pas, comme souvent, vous avez l'habitude. Donc, au moins, j'espère que vous comprenez ce qui se passe maintenant autour de cette offre payante. C'est pas juste. Et bon, une dernière chose. Mine de rien, le Facebook et l'Instagram, c'est ça qui me frustre le plus au final. Tels qu'ils ont existé jusqu'à maintenant, ils existent toujours. On peut continuer à utiliser Instagram.
Oui.
Comme on l'a... Pourquoi...
On ne vous oblige à rien.
C'est ça. Alors, pourquoi est-ce que tout à coup, quand on vous dit vous pouvez aussi avoir une option payante qui est chère, mais ça ne change rien pour vous, pourquoi est-ce que les gens disent « Ah, oh, ok, bon, bah, salut Instagram, au revoir, machin. » Mais c'est comme tu l'utilises depuis 15 ans. Qu'est-ce que... Continue, ça te plaisait, c'est ça que tu veux, continue. J'ai vraiment été...
Non, mais ça, c'est les schtroumpfs grognons de l'Internet. Enfin, tu sais bien, enfin, c'est, les gens adorent faire des déclarations grandiloquentes pour dire « Ah, je m'en vais ». En fait, deux mois après, ils sont toujours là. Hein.
C'est vrai.
C'est ça, vrai, c'est vrai. On s'attend.
C'est l'Internet. C'est comme ça. Et voilà donc pour notre troisième sujet. Et avant de passer, alors on va revenir sur Facebook et sur Mark Zuckerberg, qui là, pour le coup... C'est pas joli, joli, hein. On a l'habitude. Mais avant ça, vous savez ce qui est joli, joli, c'est pas Mark Zuckerberg, c'est Patreon. Et c'est surtout le Patreon du Rendez-vous Tech sur patreon.com/rdvtech. Vous savez que, là je me réveille hein, tout à coup, quand il s'agit de demander de l'argent, hein, vous comprenez pourquoi je dis, mais non, mais laissons-les demander de l'argent, faisons un abonnement à 12€, 15€, 20€, pourquoi pas? Parce que moi ça m'arrange. Parce que l'abonnement optionnel au Rendez-vous Tech, il est bien meilleur marché si vous le souhaitez. 1€, 2€, 3€, c'est pas grand-chose finalement si vous pouvez vous le permettre. Et j'ai suivi préemptivement le conseil de Cédric qui dit « mais il faudrait offrir des trucs en plus ». Eh ben oui, trucs en plus, des épisodes sans pub, zéro, bon ça, normal. Et il y a des contenus en plus, des éditos, des liens supplémentaires sur la newsletter, des after-shows de temps en temps. Aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais vu les enfants qui courent partout et qui font le chaos dans la maison, mais il y en a régulièrement. C'est des discussions hyper intéressantes, des trucs en plus, et puis surtout, le truc en plus. Soyons honnêtes, la raison pour laquelle vous soutenez ceux qui le font, le Rendez-vous Tech, et la raison pour laquelle vous voudrez vraiment soutenir le Rendez-vous Tech, c'est cette fierté que vous ressentez au fond de votre cœur de vous dire « Ouais, moi, il y a des gens qui font du contenu que j'apprécie, eh ben, je les soutiens. » Patrick, par exemple, peut-être d'autres qui sont également sur Patreon, d'une pierre, deux coups, trois coups. Vous avez un petit budget que vous ne voulez pas donner à Instagram, mais peut-être que vous voulez le consacrer aux créations de contenu que vous appréciez. patreon.com/rdvtech. Pour commencer, vous pouvez le faire de n'importe où, de chez vous, sur votre mobile. Et quand vous arrivez à la maison, vous mettez les clés dans le bol ou vous les accrochez au crochet, hein, c'est possible aussi. Ça fait cling, ça fait clac. Et là, vous vous dites, Patrick, il faut que j'y pense. Réflexe pavlovien, il faut que j'y pense. Je vais sur patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes de soutenir l'émission. Je vous fais des bisous spéciaux aujourd'hui, juste pour vous, là. Bisous spéciaux.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on continue. Clairement, entre Mark Zuckerberg et Patrick, le choix est vite fait. Mais je suis d'accord, la chatroom a raison. On parlait de à qui on veut bien donner de l'argent. Zuckerberg sur Instagram ou Patrick sur Patreon. Patrick, je pense. Moi, je suis un peu biaisé, mais quand même. Sujet suivant, donc, Zuckerberg, on revient à lui. Eh bien, figurez-vous que le procès qui a lieu en ce moment... Avant de parler de ça, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous utilisez, je vous la pose à vous tous les deux, et je la pose également aux auditeurs et aux auditrices, si vous utilisez les fonctions broadcast de WhatsApp et de Telegram et de Signal, je crois, on a une aussi. Vous savez, c'est les chaînes qui permettent de faire du one-to-many. Vous postez des trucs et plein de gens peuvent vous lire, mais ils ne peuvent pas répondre. Parce que Zuckerberg dit « c'est l'avenir de WhatsApp », messagerie privée qui font du broadcast maintenant, c'est l'avenir. On a plus de 225 channels sur WhatsApp, le truc a été lancé il y a quelques mois, hein. Plus de 225 channels qui ont 1 million de followers ou plus. Et je me demande si vous utilisez ça. Moi, ce n'est pas du tout mon mode d'information ou de communication. J'ai l'impression que c'est plus les trucs de complotistes. Mais
oui, il y a de ça, mais je pense que c'est un truc que dont les médias devraient s'emparer. Parce que tout à coup, voilà un canal qui génère de la notification sur le smartphone de celui. Enfin, c'est un truc de fan, en fait. Hein. C'est vraiment, tu vois, si je suis fan du Figaro Echo, moi, j'aimerais bien avoir un flux WhatsApp où tout à coup, dès qu'il y a un nouveau papier, une nouvelle news, une brève, un truc, on me le file comme ça. Plus que ça marche aussi sur Twitter, mais ça marche pas pareil.
Bah c'est ça, parce que là, tu as un flux dédié. C'est un petit peu comme aller voir un flux Twitter spécifique, mais qui est dédié dans ton app WhatsApp. Alors, encore une fois, hein, Telegram et d'autres le font. Moi, j'ai créé mes channels pour le cas où. Je me demande... tu vois, et maintenant que tu chefs, Chloé, est-ce que, tu vois, rajouter un truc en plus à faire à vos équipes au Figaro, je pense que c'est une super idée.
Alors, on a déjà un channel Figaro hein, sur WhatsApp. C'est pour l'ensemble du journal. Après, bon, je me suis abonnée.
Ah oui,
voir.
Non, mais alors c'est pas de ça qu'on parle. Tu parles. Ah oui, de l'ensemble du journal, toutes les news.
L'ensemble du journal. Public, pour le moment, ce sont tout ça, c'est géré par notre service réseaux sociaux. Donc, on a un channel, un groupe broadcast Figaro où, pour le moment, il n'y a pas grand chose dessus, mais grosso modo, tous les matins, vous trouvez la une du journal et les principaux titres avec les liens directement vers le site pour pouvoir lire les articles en question. Et là, j'ai regardé, il y a quelques jours, j'ai regardé, en fait, quasiment tous les médias français y sont déjà, avec des usages plus ou moins développés. Bon, j'ai l'impression que l'idée, c'est pas non plus d'envoyer la notif toutes les deux minutes.
Je suis abonné au channel du Figaro sur WhatsApp.
Et bah, voilà, très bien. Et bah, très bien. Mais sinon, pour répondre à ta question, moi en fait j'utilise, ça existe déjà sur Instagram depuis plus longtemps que sur WhatsApp. Et moi c'est par ce biais-là que j'ai découvert les chats. Enfin, ça s'appelle Channel sur Instagram. Et c'est pas mal parce que notamment quand tu veux suivre certains créateurs de contenu, ça leur permet de passer outre le filtre de l'algorithme. Et en fait, tu vois, au moins tu es sûr de voir toutes leurs publications sur leur channel. Donc ça leur permet aussi, moi je le vois sur certains créateurs, de dire moi voilà, je viens de publier ça, ou attention, demain sur YouTube, je publie tel truc. Enfin, c'est un canal d'information, au moins tu es sûr, l'algorithme ne vient pas s'en mêler. Donc pour ça, c'est pas mal. Et donc que ça arrive sur WhatsApp, c'est assez naturel, je pense, parce que WhatsApp, c'est vraiment l'application star en ce moment du groupe Meta. En fait, on n'en parle pas énormément, mais c'est vraiment ça. Mais en ce moment, c'est la folie. C'est très, très haut sur les téléchargements, c'est très, très haut sur les usages. C'est une application en fait, qui réunit, enfin c'est bête à dire, mais qui réunit toute la famille. Tout le monde l'utilise de 13 ans à 75, 80, 90, parce que c'est une application avant tout de communication de, voilà, entre amis, entre familles. C'est aussi devenu un outil professionnel. Et que le fait que, enfin, c'était très intéressant ce que racontait Mark Zuckerberg dans cette, dans ce papier du New York Times, c'est que oui, en fait, ils vont pousser de plus en plus le volet un peu média, on va dire, de WhatsApp, en allant au-delà juste de la discussion entre pairs, entre amis, entre familles et entre clients business, et aller. Bon, il y a ces channels, mais il y a aussi. Alors ça, tout le monde n'est pas au courant, mais il y a des stories maintenant sur WhatsApp.
Ça fait un moment.
Bien sûr.
Ça fait un moment, mais tout le monde n'est pas forcément au courant. Et un truc que je termine juste là-dessus, un truc que qu'on m'a appris il y a quelque temps, c'est que c'était utilisé pas mal par des ados qui étaient privés d'Instagram, qui n'avaient pas droit à Instagram, qui n'avaient pas droit à TikTok. Et du coup, voilà, c'était par contre, ils ont droit à WhatsApp parce que c'est utilisé dans leur classe. Et donc, ils font des stories sur WhatsApp. Mais sauf que apparemment, c'est très mal vu par les autres adolescents qui, eux, ont accès à Instagram et compagnie. En disant genre, ouais, franchement, super,
Ouais, évidemment. Il y a aussi sur WhatsApp une autre fonctionnalité qui arrive, qui est une sorte de voice chat sans appel. En fait, c'est un petit peu des trucs qu'on peut rejoindre. C'est comme un channel Discord, c'est-à-dire qu'on rentre dans le channel ou on crée le channel et n'importe qui peut rejoindre. Et on peut partir sans que ça sonne chez tout le monde. Pour le moment, c'est activé sur les très grands groupes. Non, genre les groupes de discussion qui ont, je ne sais plus, 600... Non, je ne sais plus combien ils ont, genre des milliers d'utilisateurs. 33 personnes ou plus, et ça va être élargi. Mais du coup, c'est une possibilité en plus sur WhatsApp, vraiment, Facebook et Meta est en train de pousser WhatsApp. À côté de ça, on en parlait la semaine dernière. Il y avait la question de est-ce que Zuckerberg a sciemment évité d'adresser le problème de la santé mentale des jeunes et en particulier des jeunes adolescentes qui étaient affectées sur Instagram notamment. Et il y a des témoignages et des documents qui ont été mis à jour, notamment des emails internes, qui montrent à quel point, en fait, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs équipes internes chez Instagram signalaient à Zuckerberg le problème en disant « Nous sommes préoccupés par l'effet que peut avoir tous les problèmes dont on parlait la semaine dernière, les filtres, les notifications permanentes, le FOMO, etc. etc. » sur les adolescentes notamment. Et Zuckerberg n'a pas ignoré la chose, mais a régulièrement, constamment dit « Nous voulons avoir des preuves irréfutables de ce problème, sans quoi nous ne ferons rien. Je veux que vous me donniez des preuves. » Et le niveau de preuves qu'il demandait était tellement élevé que c'était impossible à appliquer en pratique, quoi. Et donc, ça sent pas très bon pour Zuckerberg sur le fait qu'il n'était pas au courant ou qu'il n'a pas fait assez. Là, les documents qu'on vient de voir et les emails montrent plutôt que il était au courant et il a demandé un niveau de preuve, genre « Oui, mais montrez-moi des gens qui ont été affectés. » Et on peut comprendre la
« Montrez-moi les cadavres.
» C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et du coup... C'est un petit peu, comment dire, ça fait pencher la balance vers, il est responsable de ce truc, quoi. On verra dans les semaines à venir ce que donne le procès et les discussions. Autre sujet que je voulais évoquer, la grève des acteurs et des actrices de Hollywood qui ont trouvé un accord avec les studios pour les questions d'IA notamment. C'est l'aspect qui nous intéresse. La grève est terminée depuis quelques jours. Et comme pour les auteurs, en gros, ce qu'ils ont obtenu, c'est que avant de créer un double numérique d'un acteur, ils doivent en obtenir, ils doivent obtenir l'autorisation de cette personne et non seulement payer, bien sûr, les gens pour ça, mais également clarifier ou déclarer l'utilisation qu'ils vont en faire. Donc, en gros, ça verrouille un petit peu les droits d'un double numérique à la personne qu'on clone, ce qui est assez normal, mais qui a été durement obtenu avec cette grève. Je pense qu'on allait y arriver de toute façon. C'est un petit peu le même deal qu'ont eu les auteurs, on va dire, à Hollywood. Donc, rien de bien surprenant là-dedans. Autre question intéressante, les smartphones, les iPhones spécifiquement, peuvent désormais servir à encaisser des sous. Chez nous aussi, ça s'appelle Tap to Pay sur smartphone. Et ce que ça fait, c'est qu'un commerçant peut désormais utiliser son smartphone comme terminal de paiement. Et j'ai entendu beaucoup de préoccupations des gens qui disaient « Oui, mais du coup, n'importe qui peut utiliser le smartphone pour vous faire payer. Est-ce qu'on a une notification de la somme qu'on a payée ? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il nous fait payer une somme, on ne fait pas attention, on paye plus, etc. ?» En fait, le système fonctionne exactement comme les terminaux de paiement existants. Il faut les mêmes contrats avec les mêmes personnes, avec les mêmes entités de paiement, les banques, les sociétés qui font ça spécifiquement, et c'est accessible qu'aux sociétés. Mais il n'empêche, ça facilite quand même les choses, je pense. Je peux imaginer que c'est un aspect de la vie des commerçants qui est un petit peu chamboulé par l'arrivée d'une solution simple, je pense. Plus simple d'avoir un smartphone et avec la simplicité Apple que d'avoir les petits appareils qu'on connaît bien mais qui semblent un petit peu antédiluviens aujourd'hui. Pas de préoccupation particulière sur cette fonctionnalité, hein, je ne me trompe pas, Cédric et Chloé. Le tap-to-pay d'Apple, ça va, il n'y a pas d'arnaque quelque part.
Ah non. Mais on a avancé en confiance depuis qu'on paye avec nos smartphones, enfin avec nos iPhones. Ça fonctionne, ça pose pas de soucis particuliers, il n'y a pas de surcoût massif, enfin c'est, voilà, ça, it just works. Maintenant, ça va faire très mal dans l'autre sens, parce que tout à coup, tout iPhone peut devenir un terminal de paiement en puissance, donc toutes les plus petites boîtes qui faisaient ce genre de choses, à mon avis, vont souffrir, et nos taxis auront une excuse de moins pour dire « le terminal est en panne ».
C'est clair, non, puis ça va, je pense que ça va être chouette pour tous les endroits, enfin, par exemple les marchés ou les choses comme ça, où il y a toujours la question de genre « Ah, il faut payer par liquide, ouais, mais j'ai pas de liquide, etc. etc. » Et tu me fais penser sur les paiements par Apple Pay. Alors ça, j'ai pas mal de commerçants qui m'ont averti là-dessus. Alors moi, j'ai pas d'iPhone, hein, mais qui me disaient « En fait, il faut faire super attention. » Parce que contrairement à visiblement par rapport à une carte bancaire classique, en fait, il n'y a pas de limitation sur la somme que tu vas payer. Et que,
je crois qu'elle est plus élevée, la limite. Mais,
elle est plus élevée, la limite est beaucoup plus élevée.
En tout cas, elle dépend, en fait. Elle dépend du commerce, elle dépend de toi, elle dépend de la carte que tu utilises pour payer dans Apple Pay. C'est vrai que c'est un peu au petit bonheur la chance. Parfois, je dis, tiens, 80 euros, est-ce que ça va marcher ou pas ? Ah bah, ouais. Ok, ça marche, ok. Parfois, ça ne marche pas.
Récemment, j'ai plusieurs commerçants qui m'en ont parlé. Notamment le midi quand je paye avec ma carte ticket resto et qui m'ont dit « Ah, vous savez, avec Apple Pay, il y en a qui ont eu des surprises parce qu'en fait, il n'y a pas de limitation. » Enfin, visiblement, les plafonds peuvent être beaucoup plus élevés qu'on ne le croit. Donc voilà. Mais sinon, en tout cas, ouais, donc, je pense que c'est une bonne solution. Et d'ailleurs, moi, j'observe vraiment, mais avec fascination, le nombre maintenant de terminaux de paiement, donc qui ne sont pas les terminaux CB classiques, mais qui sont en train de dégrainer dans plein de boutiques. Que ce soit les Square ou autres, on sent vraiment qu'il y a une demande en fait des commerçants d'avoir des choses simples pour pouvoir encaisser, et même sur je parlais des marchés, mais même sur les marchés ou ailleurs, où là où traditionnellement c'est toujours un peu plus compliqué de payer par carte, ça se répand mais à une vitesse faramineuse, et ça je pense que ça va aussi y participer.
Et après, j'ai pas vu quelle commission Apple prend sur ces paiements-là.
Alors ça, c'est un petit peu... En fait, c'est avec les deals qu'ils font avec les entités au-dessus qui fournissent les services, d'accord, il semblerait. Donc, il n'y a pas de commission en plus, machin, mais ça passe au-dessus. Et donc, pour le préciser encore une fois, ce n'est pas plus simple au niveau du commerçant de faire le contrat avec l'entité qui va gérer le paiement, parce qu'on passe par le même billet, c'est juste le terminal lui-même qui est plus simple à obtenir, configurer, tout ça, on imagine. Mais oui, donc ça simplifie les choses, et j'imagine que tous les squares et tout ça, ils risquent ils ont un avenir un petit peu sombre, parce qu'une fois qu'il suffit d'avoir un iPhone, et plus un iPhone, plus un truc qui lui est connecté, c'est beaucoup plus simple d'avoir cette option-là. Quoi d'autre ? On parlait de... ah oui, tiens, le Galaxy S23 FE, c'est Fan Edition, je crois, qui est une version un petit peu moins chère. Il aura 4 ans de mise à jour. Alors, c'est mieux qu'avant. Je crois que c'était 3 ans avant chez Samsung, mais on n'est pas aux 7 ans du Pixel. Hein, donc, peut mieux faire, Samsung. Deux histoires d'abus de dominance, peut-être. Google a payé Samsung encore 8 milliards de dollars sur 4 ans, à partir de 2020, pour être l'option par défaut pour la recherche, pour le store, pour l'assistant. Et donc, c'est évidemment, il y a moins de Samsung que d'iPhone, mais Apple a quand même payé 8 milliards, ce qui est quand même pas mal. Et Amazon a un deal maintenant avec Snap. Ils ont déjà un deal avec Meta pour qu'on puisse acheter des choses sur Amazon à l'intérieur de Snapchat. Et c'était déjà le cas pour Meta avec Facebook et Instagram. Donc, ces deux aspects-là qui me font penser, oui, les gros utilisent les sommes d'argent qu'ils ont pour rester l'option dominante partout. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'à côté de ça, alors je tire un petit peu sur la comparaison, mais d'une part, Tumblr constate l'échec de l'extension de leur audience et de leur marché. Vous savez que Automatique, les éditeurs de WordPress, avaient racheté Tumblr il y a quelques années. Ils ont voulu en faire quelque chose de plus qu'il n'était. Et là, ils se disent, écoutez, ça n'a pas super bien marché, mais on va se concentrer sur ce qu'on sait faire. On ne va pas devenir une autre plateforme de blog en plus qui conquiert le monde. Ça n'a pas marché. Et surtout, Omegle. Vous connaissez Omegle, bien sûr, vous vous en souvenez. Omegle, c'est un service, c'est un petit peu de chatroulette, en gros, hein, qui avait été lancé en 2009 par un type dans sa chambre d'étudiant. Eh bien, il va fermer parce qu'évidemment, un service comme Omegle, ça a été utilisé pour des choses pas hyper louables. Enfin, en gros, il y a eu des abus sexuels absolument affreux. Mmh. Et le type en question, c'est pas qu'il jette l'éponge, mais il dit, ça, c'est infernal, c'est impossible à gérer, c'est impossible à protéger. En tout cas, pour moi, c'est encore une opération très, très toute petite. Et il dit, c'est des choses ignobles qui ont eu lieu, donc je vais fermer parce qu'on peut pas gérer ça. Donc, entre Tumblr, Omegle, on voit que les petits disparaissent et les gros utilisent leur somme d'argent monumental, leurs revenus, pour s'imposer partout. J'ai presque l'impression que les GAFAM sont indéboulonnables.
T'as tout compris.
C'est ça, je pense.
La régulation est un truc qui avantage les gros, pas les petits.
Je sais pas si... Alors oui, là, le raccourci est un peu rapide, je pense. Je sais pas si là, en l'occurrence, non. C'est des problèmes de régulation.
Non, parce que la régulation est une barrière à l'entrée, si tu veux. Si tu es une start-up
ça n'a rien à voir avec la régulation.
Pour te conformer au DMA, au machin. Si, parce que c'est la régulation sur la modération, en l'occurrence, pour Omegle. C'était impossible, évidemment, à modérer en direct. Enfin, c'était ça, la complication qui fait que ça ferme. La régulation est une barrière à l'entrée, c'est-à-dire que tu sais que tu vas avoir des coûts implicites, tu peux pas, tu vois, move fast and break things, c'est terminé ça.
Oui, c'est pas la conclusion que j'aurais tirée de ces sujets, mais elle est pas forcément fausse, on va dire. Uber lance bien, je crois qu'on parlait avec toi, Cédric, il y a quelques mois, du Uber Tasks, le service genre TaskRabbit, vous savez, où on peut demander à des gens de nous faire une petite tâche comme ça. Ça va être lancé dans deux villes dans les semaines qui viennent. Donc, on va effectivement avoir le TaskRabbit du Uber très bientôt. C'est évidemment...
Donc, par exemple... C'est genre, va faire la queue à ma place devant le cinéma, enfin, c'est ce genre de choses.
Oui, ou viens me réparer ma machine à laver, ou va me faire des courses, ou tu vois, c'est ce genre de petites choses.
Quelle horreur. Pardon, mais... Non, mais enfin, c'est... Moi, c'est le pire de tout, quoi. Mais,
dis-moi, dans mes détails, c'est que c'est la ubérisation de...
C'est la stratification de tout,
de la société, ceux qui ont de l'argent, même les
déjà,
petites tâches.
Je suis désolée, mais quand on voit les dégâts que ça a fait au niveau social, l'ubérisation, enfin, voilà... Là, tous les livreurs qu'on voit actuellement, bon, bah, c'est passé des petits étudiants qui voulaient se faire un peu d'argent de poche à maintenant. Bah, maintenant, ce sont des sans-papiers qui font ça parce que c'est leur manière de survivre. Là, ça va être quoi? Ça va être je te paye pour faire mes courses à Franprix, je te paye pour que tu viennes récupérer mon colis à ma place parce que j'ai trop la flemme de le faire. Enfin, c'est. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein, comme on dit. Non, franchement, ce genre de choses, tu vois, je commence un peu à m'énerver sur tous ces mini tâches. Bah là, il y a récemment, il y a un bouquin qui est sorti là-dessus, qui en fait est plus c'est un romancier qui explique, c'est sa vraie vie, hein, que j'ai oublié le nom du bouquin, mais il a décidé d'arrêter sa vie de photographe. Et pour survivre, en fait, bah, il passe par ces plateformes, voilà, de petits travaux. Et en fait, il explique à quel point déjà, il survit plus qu'il ne vit, et à quel point en fait, ça dégrade sa santé, mais à vitesse grand V, parce que il est payé des clopinettes pour aller bosser sur des chantiers, pour faire donner un coup de peinture, pour aider quelqu'un à installer sa machine à laver, et que,
Et du coup,
c'est pas bien.
Selon cette logique, sans la plateforme en question, il y aurait des CDI pour faire ces travaux-là? On passerait par des sociétés pour faire ces travaux-là? Ou est-ce que ces travaux ne seraient pas accomplis? Ou les gens les feraient eux-mêmes? Ou est-ce qu'il aurait...
Mais la question, en fait, derrière, c'est le prix.
Oui,
derrière, c'est le prix. C'est le prix, c'est combien est-ce que tu payes les gens pour faire ça? Quelle protection sociale tu leur offres aussi?
Alors, en Europe, on a une protection sociale sur ce genre de...
Oui, enfin, la protection sociale, la protection sociale qu'ont les gens qui font des livraisons est quand même assez limitée, quoi. Donc, c'est toutes ces questions-là derrière. C'est OK, je te paye pour que tu fasses des travaux, mais je te paye combien? Et derrière, est-ce que tu as une assurance maladie? Est-ce que tu es protégé en cas d'accident? Enfin, c'est tout ça, en fait. C'est tout un modèle social qui est aussi questionné par ce type de service.
Oui, mais si les services n'existaient pas, quel effet ça aurait? Est-ce qu'on aurait du travail plus acceptable au niveau sociétal et social pour les gens qui font ces travaux-là? Ou la réponse est peut-être oui, hein, je ne sais pas du tout. Je pose sincèrement la question.
Non. Non. C'est des choses qui sont nées de l'opportunité et qui sont... On est doté de modèles sociaux plus souples, entre guillemets, c'est-à-dire les micro-entreprises, etc. Et de l'autre côté, le capital risque, hein, qui a quand même... Moi, pendant des années, c'est quand même le capital risque qui a sponsorisé nos courses sur Uber, tu vois. Non, je ne pense pas qu'il y ait un équivalent où tout le monde est en CDI avec une mutuelle, tu vois, et qui fonctionne encore.
Non, mais peut-être une partie.
On
va parler
de ça au moment où je suis en train de commander mon déjeuner sur Uber Eats. Donc, c'est un peu gênant.
Il y a une vraie question pour moi qui se pose là-dessus, parce que les conditions de travail. Et peut-être que ce n'est pas maintenant, à la fin d'une émission, le moment d'avoir cette discussion, et d'autant plus que c'est très polarisant parce que c'est également une question politique. Tout est politique, mais peut-être cette question-là dans la tech plus que les autres. Mais je pense qu'il y a une vraie question sur ces sujets-là, parce que s'il n'y avait pas ces plateformes qui vous permettent de vous connecter à des gens qui vont faire ces travaux pour des sommes extrêmement réduites, on est d'accord, quelle serait la conséquence? C'est que ça serait comme avant, peut-être que nous, on irait chercher nos trucs à emporter, nous, on irait faire nos courses. Et les gens qui font ces travaux, une partie aurait peut-être trouvé d'autres travaux, d'autres travails plus sérieux, et une partie n'aurait pas de travail tout court. Mais en même temps, l'effet de ces systèmes, c'est que ça fait une sorte de stratification des classes, parce qu'on peut transformer l'argent qu'on a un petit peu en plus en temps pour nous, et on délègue les tâches qu'on aurait fait nous-mêmes à d'autres personnes qui vont faire les tâches qui coûtent pas cher, pour très peu cher. Et donc, nous, on accumule plus d'argent. Enfin, ceux qui utilisent ces services accumulent plus d'argent. Et ceux qui font les tâches vivent de petits travaux qui ne payent pas bien. Enfin, il y a plein de questions imbriquées là-dedans. Ce n'est pas aussi simple que... Et donc, la société est dans un état pire avec ou la société est dans un état meilleur avec. Évidemment, on est entre les deux. Mais il y a plein de questions là-dessus. On nous dit,
c'est pas tout bien tout mal, si tu veux, de
la société.
Ouais, c'est pas tout bien tout mal. On a tous eu des petits jobs pas terribles. Enfin, moi, j'en ai pas eu beaucoup, je veux dire. Mais moi, j'aurais pas de soucis à ce que, je sais pas, mon fils à 16 ans aille passer un mois d'été à livrer des trucs sur Uber Eats. En fait,
mais tu vois,
ça t'apprend la valeur du travail. Enfin, c'est, voilà.
C'est tout le problème. Mais c'est que la promesse
mais
de
que
ces
ça devienne
services...
la vie.
C'est ça. Voilà.
Que ça devienne. Comment tu fais une vie avec ça? C'est pas.
C'est ça. Le problème, c'est que c'est l'idée entre guillemets d'un petit boulot. C'est ce que tu disais, Chloé. C'est l'idée de. Bah, j'en fais un petit peu plus pour me faire des sous de temps en temps ou machin. C'était le principe même de Uber et de tous ces services-là. Bah, de temps en temps, je conduis un petit peu plus ou je vais quelque part. Je vais prendre quelqu'un dans ma bagnole. Et dans la pratique, ce qu'on constate, c'est que c'est pas un petit peu de temps en temps. C'est que il y a beaucoup de gens qui en font leur métier. Je ne sais pas comment c'est sur les livreurs. Je crois que chez les chauffeurs, il y a des gens qui sont satisfaits de la plateforme. Je suis sûr qu'il y en a qui ne sont pas satisfaits. Chez les livreurs, j'ai l'impression peut-être moins. Et je ne sais pas comment ça se fera avec Tasks. Bon, bref, c'est un débat plus large peut-être. Mais rassurons-nous, on va avoir un film... sur Elon Musk, tiré du livre de Isaacson, le biographe de Steve Jobs, et donc réalisé par Darren Aronofsky. Donc, wow. Tout va bien.
C'est intéressant parce que Darren Aronofsky, moi, je me souviens d'un de ses premiers films qui s'appelait Pi, un truc extraordinaire.
Pi, qui était incroyable, en noir et blanc, enfin, c'était fou.
Qui était incroyable. Ah ouais, c'était avec ce type qui avait découvert l'algorithme secret, qui expliquait la vie, l'espace et tout le reste, et surtout les marchés.
C'était il y a 20 ans, Pi.
De génie méconnu. Mais Pi, c'était pas mal. La bio est assez linéaire, hein, pour la lire en moment. C'est intéressant, il y a des choses qu'on savait, des choses qu'on ne savait pas. Mais bon, ça reste... je ne suis pas tombé encore de mon canapé en la lisant, en disant « Quoi ? C'est incroyable !» Ouais. Voilà, bon, c'est assez fidèle à ce qu'on savait du personnage. Maintenant, est-ce que ça vaut un biopic ? Ouais, par Darren Aronofsky, je pense que ça le vaut.
Ouais, c'est ça.
Ah, ça peut être intéressant.
Mais,
vu le,
mais qui va le jouer ?
Qui va le jouer ?
C'est la grande question. j'aurais quelques propositions, mais bon. moi, je dirais Chris Pratt. Ça serait une bonne idée, Chris Pratt.
Je joue Marvel, ça, je ne suis pas étonné.
Dernière chose, la newsletter. Dans la liste de lecture, je vais mettre cette semaine la newsletter du vendredi. Deux sujets vraiment intéressants. D'une part, une personne de CNET qui a eu entre les mains les vidéos, special vidéos qui sont utilisables avec le Apple Vision Pro. Et c'est des vidéos qu'on peut prendre avec n'importe quel smartphone. Il nous explique comment ça marche et ce que ça donne. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il y a aussi un article et une vidéo de Numérama sur le livre « Allô Paris, ici Moscou » qui rentre dans les coulisses, je lis le titre littéralement de l'article, de la propagande russe, les coulisses de la propagande russe, hyper intéressant. Alors, c'est Nicolas Kennel, qui est un journaliste d'investigation, qui a écrit ce livre et il en parle à Numérama. Donc, il y a une vidéo d'une dizaine de minutes qui donne quelques exemples et l'article qui en parle également. Je vous encourage à aller regarder ça si ça vous intéresse et puis éventuellement lire le livre ensuite, potentiellement. Mais c'est hyper, hyper intéressant. Je ne vais pas en parler plus parce que c'est dans la newsletter, mais... Les opérations d'influence et de propagande de Moscou, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, machin, tout le monde fait pareil, il y a des gens... Mais... » Non, pas du tout.
Non, il y a un degré d'opiniâtreté et de créativité assez impressionnant.
Merci à tous les deux d'avoir été avec moi pendant cette heure et demie délicieuse de discussion tech. Avant de se quitter, je sais que tu as un rendez-vous très important, Chloé.
Ah oui.
Je comprends. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ? Alors, Le Figaro, hein, bien sûr, mais est-ce que
Le Figaro, Le Figaro, évidemment. Le Figaro, page médias et technologies, et sur le site, du coup, sur les pages médias et technologies. Également sur Twitter, car oui, ça bouge encore. X, W_Chloé. J'ai également pris mon petit baluchon et je suis allée du côté de Blue Sky. Donc, je suis aussi là-bas. Et là, c'est Chloé W, je crois, mon nom. Attends, je vérifie parce que j'ai pas... Je vérifie en direct. Parce que W Chloé était déjà pris. C'est ça, c'est Chloé W. Voilà, et c'est tout attaché. Il n'y a pas de... Ce qu'on ne peut pas faire d'underscore sur Blue Sky, sachez-le. Et c'est plutôt sympa sur Blue Sky, ça va, c'est plus calme. C'est plus sûr.
Je te suis désormais sur Blue Sky également. Voilà, comme ça c'est fait. J'en profite pour encourager tous les auditeurs à suivre Chloé, du coup, sur X et sur Blue Sky. Vraiment, la veille que tu fais et les tweets et les mises à jour que tu fais sur X et sur Blue Sky, du coup, j'imagine que c'est les mêmes, sont vraiment hyper intéressants. Et il y a peu de gens comme ça, je dis pas ça parce que tu es là, je te promets, je le fais presque jamais, mais il y a peu de gens pour qui, quand je vois un tweet, je me dis « Ah ok, bon ça je vais lire parce que... » Enfin, le tweet lui-même, je vais lire parce que je sais que ça va être intéressant. Et contrairement à moi qui poste des photos de mon ordinateur et de mes enfants, Chloé, elle poste des trucs vraiment qui ont de la valeur. Donc, Chloé Voitier...
J'ai appris avec le temps à faire une timeline 100% professionnelle. C'était pas le cas avant. Hein. Avant, c'était beaucoup plus mélangé. Maintenant, c'est 100% pro.
Et c'est intéressant. Cédric, où te retrouve-t-on, toi ?
At Cédric sur X, at Cédric, le 2, le chiffre 2, Cédric.
Sur X, non ?
Oui, c'est vrai que c'est plus calme. C'est le truc où tu vas quand... je viens de m'énerver, je vais aller sur Blue Sky.
Ouais, c'est clair, je suis sur Blue Sky, c'est bon, il y a moins de monde, il y a moins de trucs à lire. C'est plus calme.
Et puis, allez écouter le dernier épisode des Doigts dans la prise, mon podcast sur la voiture électrique.
Il est sorti quand ? Cédric, on l'a définitivement perdu. Merci.
Ah ouais, je suis désolé, c'est terrible. Hein. Je vais faire un peu de travail réseau d'ici la prochaine. Hein.
On verra ce que ça donne. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout, sur Blue Sky, sur X, sur Instagram, etc., etc. Et vous pouvez également, bien sûr, nous retrouver sur Twitch et sur YouTube en live. On monte un petit à petit sur YouTube. 8 viewers simultanés sur YouTube en live. Bonjour à vous tous, incroyable. Évidemment, les replays sont sur YouTube également. Et je vous encourage à venir sur le Discord, qui est vraiment l'endroit le plus sympa, encore plus que Blue Sky. Et la chaîne, le sujet Blue Sky sur le Discord distribue beaucoup de clés, parce qu'il y a plein de gens qui en ont eu sur le Discord, qui reviennent les redistribuer. J'en parle à la fin de l'émission, comme ça, c'est que les vrais qui viennent sur le Discord, les vrais auditeurs, pas des opportunistes. Donc, vous pouvez venir en récupérer. Il y en a qui ne sont pas récupérés pendant 10, 15, 20, 30 minutes maintenant. C'est incroyable. Avant, ça faisait 10 secondes. Et bien sûr, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission quand vous rentrez chez vous. Cling, les clés dans le bol. Patrick, on va sur l'ordinateur. patreon.com/rdvtech. Merci à tous et à toutes. Je vous
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.